Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce 11e épisode déjà de Radio DevOps. Ça fait presque un an et le prochain épisode, ça fera un an que tu nous écoutes et que tu nous écoutes discuter et déblatérer sur plein de choses autour du DevOps. À croire qu'on n'a pas encore fini de faire le tour du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet. Un sujet dont on ne peut pas se passer, parce qu'une fois qu'on y a goûté, eh ben on peut vraiment plus s'en passer, et pourtant, elle n'est pas partout. L'intégration continue, ou la CI, pour Continuous Integration, est au cœur du cycle de vie DevOps du produit. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de sa petite sœur, la livraison continue, ni de son petit frère, le déploiement continu, mais on l'abordera dans une autre émission, promis. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai René. Bonjour René, enfin même bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir Christophe, bonsoir Erwan.
Et comme tu l'auras compris, Erwan aussi est avec nous.
Bonsoir.
Donc, ils sont tous les deux membres des compagnons du DevOps. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas encore la communauté des compagnons du DevOps, j'ai justement fait une vidéo de type vlog sur la chaîne YouTube pour te présenter le forum des compagnons du DevOps où on discute. Et en ce moment, on discute beaucoup et pas mal, et on discute beaucoup d'intégration continue. J'ai remarqué en faisant cette vidéo que c'est un des sujets qui est le plus abordé dans le forum. Je pense que vous pourrez le confirmer tous les deux.
Oui, plutôt.
Tout à fait.
Bon, alors on va commencer par, évidemment, on a plein d'auditrices et auditeurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'une intégration continue, parce que y a plein de néophytes qui nous écoutent. Et on va commencer par définir l'intégration continue. En gros, c'est quoi une CI et à quoi ça sert? Donc Erwan, je vais te laisser la parole. Tu vas nous donner ta petite définition de l'intégration continue.
La grosse pression. Pour moi, l'intégration continue, c'est pour répondre aux besoins qu'on a de vouloir toujours merger de plus en plus vite des features ou des fixes sur une main branch. Et l'intégration continue, c'est les outils qui vont permettre de s'assurer que ce merge se passe dans de bonnes conditions et respecte tout un tas de standards qu'on se sera fixé et dont on va discuter, j'imagine, par la suite, qui sont les tests, le lint, les licences embarquées, etc., etc. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois. C'est les outils qui vont nous permettre de, à chaque fois, intégrer les features ou les fixes sur les main branches de façon automatique et en suivant des conventions, des normes et des tests.
Est-ce que René, tu veux tenter une petite définition ou est-ce que je balance la mienne avant?
Allez, je tente. Donc oui, je dirais que c'est une succession d'étapes qu'on va exécuter systématiquement pour s'assurer que, en partant d'un code source, de la qualité de ce code source-là, donc s'assurer qu'on arrive à le construire, s'assurer qu'il est de bonne qualité, et à la fin, c'est pas évident, on arrive éventuellement à la création d'un artefact qui pourra être utilisé pour le déploiement.
Oh, t'es allé loin dans la définition, dis donc.
Ouais, j'ai un peu improvisé là.
je vais improviser aussi, alors on va tous s'improviser. Pour moi, l'intégration continue, c'est en fait quelque chose qui nous permet d'exécuter des tâches après avoir poussé notre code. Et à quoi ça sert en fait d'exécuter des tâches après avoir poussé notre code? C'est à s'assurer qu'en fait soit les tests de notre code passent bien pour pouvoir avoir une bonne couverture de tests, soit faire des scans de sécurité par exemple, ou tout un tas d'autres actions qui nous permettent d'assurer la robustesse du code. Et pourquoi on en a besoin? Parce que je pense qu'avant, les développeurs lançaient leurs tests et faisaient les choses manuellement sur leur machine avant de faire leur commit. Et je pense que quelqu'un un jour s'est dit, mais tiens, mais si on le faisait au moment du push sur un serveur qui est dédié, et comme ça, en plus, ça nous permettrait d'assurer la robustesse du code, et à chaque fois que quelqu'un va merger, on pourra voir si rien n'est cassé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, ça se rejoint.
Oui, je suis d'accord.
Alors, l'un de vous, mais je ne sais pas qui m'a laissé cette note, voulait qu'on parle justement de l'intégration continue dans la chaîne DevOps. Je sais que ce n'est pas moi qui ai laissé ce petit message.
Je pense que c'est moi. Parce qu'en fait, souvent ça vient pas comme ça de mettre en place ce genre d'outils et donc du coup c'est vraiment en tout cas moi c'est comme ça que je suis venu on va dire au mouvement DevOps. C'est que avant il y a très longtemps je faisais des outils pour moi et pour des gens comme moi dans mon équipe et quand on a commencé à de plus en plus répandre des solutions de CI, en fait on faisait des outils pour que les devs puissent du coup écrire des tests, puissent lancer des tests dans des environnements qui sont dédiés par exemple à leur pull request ou des choses comme ça. Et donc du coup c'est clair pour moi, je vois ça vraiment comme un sujet typique où le pont entre l'infra et les devs est très fort et je vois pas comment on peut comment on peut mettre ce genre en place ce genre de solutions, surtout quand c'est des solutions on-premise qu'on héberge soi-même. Je vois pas comment on peut mettre en place ce genre de solutions sans une relation forte entre ces deux équipes.
Oui, clairement, hein, je pense. Pour moi, ne serait-ce comment l'application se construit. Souvent, c'est le développeur qui a une idée de comment ça doit se construire. Et si on ne lui parle pas, ça va être compliqué de construire cette application. Donc pour moi, c'est obligatoire, entre guillemets, d'échanger avec les développeurs pour savoir comment ça se construit, comment ça se configure.
Alors, pour moi, quand les prospects viennent me voir pour commencer à faire une transition DevOps, je leur demande déjà s'ils sont agiles. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, je leur demande s'ils ont mis en place une intégration continue avec des tests sur leur application. Parce que souvent, quand ils viennent me voir, outre le fait de faire une transition DevOps, ils viennent chercher aussi du déploiement continu. Donc, on en parlera plus tard. Mais la première pierre, c'est quand même l'intégration continue. Parce que ça rassure les ops sur la qualité du logiciel qu'ils vont devoir installer, et même ça rassure les devs sur la qualité du logiciel qu'ils sont collectivement en train de faire. Et du coup, on en vient à la question du sur quoi on fait tourner ça, parce que c'est bien beau de parler de la théorie, mais sur quoi on fait tourner ça? Est-ce qu'on a des solutions SaaS pour ça? Est-ce qu'on héberge nous-mêmes? Est-ce qu'on a des logiciels open source libres qui nous permettent de faire ça? Tout un tas de questions. Et avant de faire du name dropping, on va faire du name dropping et avant d'aborder nos solutions préférées, je pense. Donc, si l'un de vous veut se lancer, je suis tout oui.
Moi je peux commencer. Aujourd'hui j'utilise principalement dans le cadre du travail, j'utilise principalement Jenkins qu'on héberge nous-mêmes. Et donc Jenkins avec des Jenkins slaves qu'on déploie avec du Ansible.
Ah, on a perdu Erwan. Bon, ça me fait. Du coup, je vais profiter du fait que Erwan est disparu pour dire que Jenkins, c'est un projet qui, en fait, est hérité d'un autre qui s'appelle Hudson. Et Hudson existe depuis plus de 12 ans. Je m'en suis aperçu en faisant ma formation, justement, en créant ma formation. Hudson, ça fait plus de 12 ans, donc il existe depuis avant, finalement, l'émergence du mot DevOps.
Ouais, alors, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. À la fois en SaaS, Donc, on peut en citer quelques-unes. Donc, il y a CircleCI, il y a Travis, il y a GitHub Action, par exemple. J'en oublie probablement. Il y en a une chez AWS aussi, dont j'ai oublié le nom. Donc, voilà, il y a plein de solutions en SaaS. Il y a celle de Microsoft avec Azure DevOps. Voilà. Et après, on-premise, open source, principalement deux, je pense. Il y a, non, il y en a même plus que ça, mais les plus connus, on va dire, c'est GitLab et Jenkins. Voilà, et donc, moi, souvent, ben, je m'adapte en fait en fonction de ce que les clients veulent utiliser. Je cherche pas forcément à, voilà, on va parler des préférences après, mais moi, je m'adapte en fait. Donc, bah, s'il y a déjà un existant, je ne vais pas forcément révolutionner ce qui est déjà en place. Et je pense que ça fait partie un peu de la culture DevOps de ne pas vouloir révolutionner s'il y a déjà des habitudes et une certaine pratique sur des outils. S'ils font l'affaire, bah, voilà, autant les utiliser.
Erwan, t'es de retour avec nous.
Ouais, désolé, je vais essayer d'aller vite du coup. Donc, au quotidien, au travail, on utilise Jenkins qu'on héberge nous-mêmes et qu'on déploie avec du Ansible. Donc, Jenkins avec des slaves. Mais par contre, pour les projets open source, moi j'utilise essentiellement CircleCI et puis du coup, depuis peu, les GitHub Action.
Alors, moi j'ai essayé, j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé Travis CI, CircleCI, pas mal. GitLab CI évidemment, Jenkins aussi, j'en ai fait. Je me suis intéressé pendant un moment à Drone qui était basé sur des conteneurs, qui était l'un des premiers à se baser sur les conteneurs. Puis je crois que le projet a un peu périclité, mais qui s'est relancé il n'y a pas si longtemps. Voilà, en gros, j'ai pas utilisé ni Azure DevOps ni autre. Par contre, ça me fait penser, parce qu'en parlant de Jenkins, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que de base, sur Jenkins, par exemple, la CI, elle n'est pas hébergée dans le code, ou alors il faut rajouter un plugin en plus. Et je me dis, est-ce que vous en connaissez d'autres qui, comme ça, n'ont pas le code de l'intégration continue qui est hébergé dans le code lui-même, dans Git?
Alors, je pense que ça a évolué en fait. Parce qu'au début, effectivement, Jenkins était énormément basé sur des plugins et de la configuration entre guillemets, en GUI, quoi. Et en fait, ça a évolué. Aujourd'hui, ils ont vraiment. Tu peux mettre, tu définis un pipeline, tu dis où il se trouve. Et donc, de la même manière que GitLab, bah, il vient lire ce pipeline et exécuter toutes les actions que tu as mis dedans.
Ouais, ça, le Jenkins, aujourd'hui, enfin, en tout cas, nous, toute notre CI repose sur des Jenkins files et ça ressemble. Alors, c'est du Groovy-like, donc c'est une syntaxe qui est un peu particulière, mais en fait, ça reste hyper efficace. Et en tout cas, moi, je suis d'accord avec René, c'est un truc qui vit avec le code et moi, je touche jamais à l'interface graphique de Jenkins.
Ils l'ont vraiment fait évoluer juste il y a un truc aussi qui est assez rigolo sur les pipelines, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode déclaratif, donc avec un DSL, donc un langage particulier où on peut vraiment définir enfin, des mots-clés, et il y a un mode scripté, donc alors après on peut chacun ses préférences, voilà, sachant qu'on peut aussi faire dans le déclaratif du scripté, donc ça permet d'aller très très loin avec Jenkins.
Bah, j'ai utilisé Jenkins il y a 4 ans, c'était mon client à l'époque qui l'hébergeait. Et en effet, je lui ai très vite un peu forcé la main pour qu'il installe le plugin Jenkinsfile et qu'on le versionne dans le code, parce que lui, il ne le faisait pas. Mais je crois qu'il avait une version de retard sur Jenkins, alors c'est peut-être pour ça, du coup. Mais j'avoue que je ne suis pas un grand fan du Groovy. C'est pas un truc qui me plaît plus que ça. Bah d'ailleurs, on va parler des solutions préférées, du fait. René, c'est quoi ta solution préférée?
Ah, c'est difficile, j'ai du mal à choisir. Bon, j'aime beaucoup GitLab, je trouve que il y a une cohérence, je trouve que c'est vraiment bien fait, les pipelines, etc. Mais alors Jenkins, il y a des faiblesses. L'interface graphique, elle est des fois un peu bizarre. Enfin, voilà. Une des plus grosses faiblesses souvent, c'est que donc c'est basé sur des plugins. Et souvent c'est la documentation des plugins. Là, parfois c'est vraiment pas ouf. Tu vas être gentil, je vais dire pas ouf. Par contre, moi, je trouve que c'est du. Au-delà de ça, c'est un outil, je trouve, qui est aussi super puissant. Voilà, moi j'ai des clients sur l'un et sur l'autre. Et voilà, j'aime bien les deux en fait. Voilà, pas de préférence du coup. Et donc oui, pardon, je vais juste finir parce que j'ai aussi fait un peu d'Azure DevOps. Je suis pas quelqu'un de très orienté Microsoft, mais je dois reconnaître que bah, c'est pas mal aussi. Après, je comprends pas forcément la logique d'avoir Azure DevOps et GitHub Action de l'autre. Je pense que tout ça, à un moment, peut-être, ça va se fusionner. J'en sais rien, mais voilà. Enfin, en tout cas, l'expérience quand même de Azure DevOps, c'est peut-être pas non plus inintéressante. Voilà.
Je pense surtout que les personnes qui sont sur GitHub n'ont pas forcément Azure, et peut-être vice-versa, ça je ne sais pas, mais en tout cas je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens sur GitHub qui n'ont pas Azure DevOps. On parle GitHub Action juste à la fin pour avoir un petit retour d'expérience. Je vais laisser à nouveau la parole à Erwan. C'est quoi ta solution préférée?
Ouais, un peu comme René, je suis assez versatile là-dessus. Par contre, effectivement, aujourd'hui, comme j'utilise quand même pas mal Jenkins, et que je suis d'accord, moi je trouve ça assez puissant. En plus, on s'est créé un repo de petites librairies Jenkins qui nous simplifie la vie, qui fait que bah, notre Jenkins file il commence vraiment à être relativement épuré, et donc ça devient agréable à les faire. Mais sinon, moi j'aime bien, je trouve que CircleCI ça fait bien le job et que c'est cool. Mais sinon, alors je sais pas si vous avez connu, mais moi je garde un souvenir ému de Bamboo, la solution d'Atlassian qui est un Jenkins-like. En fait, je trouvais que l'interface était super en avance sur son temps. J'imagine que je garde un souvenir très ému parce que, à mon avis, plus personne n'utilise trop Bamboo.
Hein, j'ai joué aussi un peu avec Travis et Travis, ouais, c'est sympa aussi. Hein. Enfin, je pense qu'on ça va peut-être on peut peut-être aller un enfin ouais, je suis même pas sûr de ce que je vais dire, mais peut-être que on peut aller peut-être un peu moins loin que ce qu'on peut faire avec Jenkins et encore voilà. Mais ouais, toutes ces solutions sont sympas.
Alors moi j'ai oublié d'en citer un. L'un des premiers que j'ai utilisé, c'était Codeship, qui a longtemps été un des phares, mais qui a vite été rattrapé par d'autres. Alors ce que je peux préciser, peut-être pour nos auditrices et auditeurs, c'est que j'ai oublié son nom. Jenkins, c'est pas que la CI, il fait beaucoup plus de choses, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, et d'ailleurs c'est la solution open source la plus utilisée jusqu'à présent, qui l'utilise parce qu'il va plus loin qu'en fait la CI ou la CD, il fait vraiment beaucoup d'autres choses, notamment avec cette notion de plugin. Moi, ma solution préférée avant de découvrir GitLab CI, c'était CircleCI. Mais depuis que j'ai découvert GitLab CI, eh ben, c'est devenu GitLab CI pour la simple et bonne raison qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec GitLab CI. Et puis avec l'arrivée des includes, le fait de pouvoir appeler des morceaux de code, de template, depuis des dépôts en fait, c'est devenu vraiment magique pour moi parce qu'on peut avoir des petits bouts, on peut les surcharger aussi, puisqu'on peut étendre des jobs avec GitLab CI. Donc ça nous permet d'avoir des CI très très petites. Et d'ailleurs, j'ai montré une partie de ça dans mes live coding bash où je montre comment est-ce qu'on peut étendre. Enfin, comment est-ce qu'on peut appeler des includes d'autres petites choses, ce qui nous fait des CI très très fines, et ce qui fait qu'on peut avoir par exemple un dépôt centralisé avec tous nos templates de code de CI et de les partager entre les projets. Erwan, ça a l'air de te plaire ça.
Ah oui, non mais moi je trouve ça toujours trop cool quand tu peux avoir plein de trucs modulaires comme ça et enfin c'est hyper cool. Mais tu vois, je vais faire l'avocat du diable, mais avec Jenkins tu peux retrouver tout ça.
C'est vrai, mais Jenkins n'héberge pas ton code Git aussi. Il ne te permet pas de gérer des projets, donc c'est vrai qu'avoir un seul outil, ça me plaît bien. Mais bon, on a chacun nos préférences en même temps. Et puis moi, je n'ai pas le temps de maintenir un Jenkins plus un GitLab. Déjà, maintenir un GitLab, c'est déjà un boulot en soi.
Ouais, après, juste peut-être, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais donc c'est CloudBees, la société derrière Jenkins. Et en fait, sauf erreur de ma part, je crois que c'est eux qui ont racheté CodeShip, en fait. Donc CodeShip fait partie de, si je dis pas de bêtises, c'est une offre de CloudBees en SaaS.
Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient été rachetés, mais je ne savais plus par qui. Avant de passer à comment elle est déclenchée, l'intégration continue, est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action, qui est finalement la solution la plus récente, puisque GitHub avant n'avait pas de CI, on était obligé de plugger un autre système comme Travis ou Circle ou même GitLab, puisqu'on peut bloquer, on peut plugger GitLab CI sur GitHub. Est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action?
J'ai pas trouvé que c'était un game changer pour le moment, quoi. Je trouve ça cool, c'est bien fait. C'est vrai qu'il y a une intégration qui facilite la conf. Hein. Il y a vraiment zéro truc à faire. Tu vois, par exemple, là, au travail, je vois pas pourquoi on migrerait là-dessus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc c'est cool. Probablement si, enfin, et encore même pas, parce que comme j'ai mes habitudes sur CircleCI, je pense que j'irai plus naturellement sur CircleCI que sur les GitHub Action. Mais en tout cas, ils poussent vachement le truc, et donc on peut imaginer qu'il y aura des features beaucoup plus intéressantes et disruptives à l'avenir.
Tiens, il y a une question qui me vient, puisqu'on est en train de parler de où est-ce qu'on fait tourner la CI. Et comme on parle beaucoup d'offres en SaaS, est-ce que ça ne vous dérange pas justement d'envoyer votre code sur un service en ligne dont vous n'êtes pas propriétaire ou autre? Et est-ce que ça vous rassure ou pas? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais comme on peut sur GitLab CI ajouter des serveurs qui sont à nous et qui sont hébergés dans nos infrastructures, on peut faire tourner notre CI de notre code sur nos propres serveurs, ce qui fait que ça évite que ce soit les services du SaaS qui les fassent tourner. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête?
Je peux peut-être répondre. Oui, donc c'est assez sensibilisé à ça. Après, moi, mes clients, globalement, souvent c'est on-premise pour certains, enfin pour la plupart. Donc voilà, ils hébergent tout à demeure, en fait.
Ouais, moi, je rejoins un peu René là-dessus. Hein. Alors aujourd'hui, effectivement, à mon taf, on héberge pas mal de choses, de projets sur GitHub. Donc finalement, le truc est cassé, entre guillemets. Mais par contre, dans mes précédentes boîtes, tout était hébergé en interne, que ce soit la CI ou les repos, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Moi les clients, j'ai des clients par exemple qui ont plus le source code management qui est déporté sur une plateforme accessible depuis internet mais privée, donc souvent Bitbucket ou GitLab, mais qui gardent quand même la CI en interne.
D'accord. Et pour les clients qui font du Circle, ça les dérange pas finalement, parce que bon, je pense qu'on abordera ce point-là aussi pour le déploiement, parce que c'est un sujet hyper sensible. Mais pour moi, il y a un truc là qui se joue peut-être.
Alors, non, mais tu as raison, mais c'est effectivement pour le déploiement, et je pense que c'est pour ça que il y a énormément de gens qui internalisent ce type de service, parce que il y a un moment donné où tu vas devoir partager des secrets ou quoi que ce soit qui peuvent être un peu critiques, et donc tu te dis bon bah effectivement, si Circle se fait avoir ou je sais pas quoi, j'ai peut-être pas envie que ça soit Circle qui va pusher sur mon infra mon code, quoi.
C'est pour ça que je suis de plus en plus en mode GitOps pull que push. Mais ça, on en parlera, je pense, aussi. Alors, quand est-ce qu'elle est déclenchée, la CI? On va se faire une petite partie apéro, parce que cette partie, elle va être assez courte. Comment est-ce qu'elle est déclenchée, du fait, cette intégration continue? Sur quel événement, qu'est-ce qui se passe, en fait?
Moi, de mon côté, on déclenche à la création de pull requests et sur des branches identifiées, donc la branche master et la branche de release, en gros.
Ouais, bah, globalement, pour nous, moi, c'est globalement la même chose, c'est sur événements, donc souvent sur les merge requests. Sinon, aussi, toutes les nuits, souvent en cron. Donc, on fait tourner une intégration continue sur la branche de dev. Et puis, est-ce que ça permet de faire aussi en cron? Parce que parfois, pour avoir la meilleure expérience utilisateur, si la CI commence à devenir vraiment longue pour passer dans les différentes étapes, c'est vrai que c'est un peu pénible, on n'a pas le retour d'expérience tout de suite. Donc, ce qu'on peut se permettre de faire, c'est faire une CI entre guillemets allégée pour quand on fait des opérations un peu classiques, dans la journée, et puis la nuit faire tourner une CI un peu plus balèze entre guillemets, qui va prendre beaucoup plus de temps pour vérifier beaucoup plus de choses.
Ouais, je pense aussi au nightly build, aux constructions de nuit de toutes nos distributions Linux préférées ou nos images Docker préférées ou je ne sais quoi préférées. En effet, le plus souvent, c'est déclenché sur le push dès qu'on fait un git push sur notre branche au moment du merge. On peut aussi déclencher sur des branches particulières et sur des tags aussi. Sur des tags, on peut déclencher des événements sur des tags particuliers. C'est un truc, ou sur déclenchement manuel aussi. On peut avoir dans une pipeline, donc la pipeline c'est un ensemble de tâches qui se suivent, on peut avoir des séquences manuelles. Et je ne sais pas si vous utilisez les déclenchements ou les pipelines enfants, parce que c'est un truc qui existe sur GitLab, mais je ne sais pas si ça existe dans d'autres CI, c'est-à-dire c'est des pipelines qui vont déclencher d'autres pipelines dans d'autres bouts de code.
Ah bah, sur Jenkins, en tout cas, nous, on fait quasiment que ça, quoi. On a plein de jobs qui sont assez macro, et tu as des espèces de jobs méta qui savent appeler, parfois paralléliser les appels, savoir s'il faut attendre le résultat ou pas de ces différents jobs. Et donc, du coup, tu crées des pipelines de pipelines.
Ouais, clairement, oui, pareil. Donc, chez un client, on a une application qui est assez complexe avec pas mal de modules. Et donc, on va dire, on a un pipeline un peu global qui va appeler les différentes constructions des différents modules et puis faire ces constructions-là, quoi. Voilà. Donc, oui.
Moi, il y a une autre question qui me vient, qui nous sort un peu de l'intégration continue, mais c'est mon passé d'exploitant de prod qui se pose la question. Est-ce que vous avez déjà été tenté par utiliser les outils d'intégration continue comme des ordonnanceurs? Alors, Jenkins est aussi un ordonnanceur, c'est une de ses forces, mais est-ce que ça vous a tenté un jour, plutôt que d'installer des outils type, je ne sais pas si vous connaissez, Ctrl-M, de la rue, ou ce genre de choses?
Moi, je sais qu'il y a un projet qu'on a dans le Jenkins file, il a une définition de cron dedans, quoi. Donc, du coup, le projet se lance tous les X temps de façon régulière, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça soit fait autrement, quoi. Mais là, c'est quand même pratique. Ça nous évite quand même pas mal de choses, et en fait c'est intégré, ça marche bien, donc là j'avoue que clairement, mais on en a pas beaucoup, mais là comme ça de tête, il y a deux jobs identifiés qui sont lancés comme ça, comme des cron.
Ouais, alors planifier, non, en principe on laisse quand même plutôt l'outil qui est vraiment dédié pour le faire. Par contre, nous, on a on a des jobs d'exploit, par exemple, dans Jenkins. Voilà. Donc, je sais pas, un exemple, contrôler par exemple qu'on a un cluster qui est dans un bon état. On peut avoir un job pour faire ça. Voilà, c'est un exemple. Mais...
Oui, c'est typiquement à ça que je pensais justement.
Voilà, par contre, quand c'est ces jobs-là, on va avoir tendance. Enfin, après, ça dépend des clients, mais globalement, pour l'instant, sur mon client principal, voilà, on va essayer de garder la partie scheduling vraiment sur un outil dédié.
Alors, on va pouvoir passer au gros, je pense, de l'épisode. Finalement, qu'est-ce qu'on met dans notre intégration continue? On va voir qu'il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer par donner une idée des étapes qu'on retrouve régulièrement dans les fameuses pipelines. Je crois qu'il n'y a pas de terme adapté en français, puisque de toute façon, pipeline existe en français, mais d'ailleurs, c'est un pipeline et pas une pipeline, d'après ce que j'ai appris récemment. Donc dans notre pipeline, quelle étape on peut mettre? Et vous, quelle étape vous mettez finalement? Et quelle étape les développeurs que vous connaissez mettent dedans? Erwan, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît?
Oui, ce que je pense qui est commun à tous nos projets, c'est le linter et le format, s'assurer que les conventions de code, etc., sont bien respectées dans les projets. Donc ça, une étape qui a lieu à chaque fois au début. Ensuite, il y a forcément, enfin forcément. Ouais, ensuite, on a quasiment tous les pipelines ont un step de test unitaire. Et après, après suivant les projets, suivant ce qu'on file au client ou quoi que ce soit, par exemple, il y a les phases de sécurité. On regarde les dépendances qui sont utilisées, s'il y a des vulnérabilités connues. Donc que ce soit sur les images Docker ou sur les packages Python par exemple qu'on fournit. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Donc test unitaire et éventuellement des tests d'intégration. Et puis après une étape de build. Globalement, je pense que c'est les trucs qui sont communs à tous nos projets.
René, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou préciser des points?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui. Alors, bizarrement, le lint, nous, on l'a pas forcément toujours dans la CI. Je pense que c'est plutôt une bonne pratique, mais voilà, aujourd'hui, par exemple, c'est plutôt fait avec des plugins sur les IDE des développeurs. Je dis pas que c'est bien de le faire, mais voilà. Donc après, ça dépend aussi du langage. Donc si c'est un langage compilé ou si c'est du scripté, mais voilà, il y a forcément une étape de build. Surtout si c'est du Java, donc compilation ou si c'est du C, hein, compilation du code source. Et puis après, pour moi, vraiment la plus importante de tous, c'est vraiment les tests unitaires. Pour moi, c'est un peu la clé de voûte de la CI. Pour moi, s'il n'y a pas de test unitaire, en 2020, je comprends pas. Donc voilà, ça c'est vraiment Ouais, je vois pas comment on peut s'en passer. Voilà, donc test unitaire hyper important. D'ailleurs, je comprends pas. Enfin voilà, je vais pas faire mon intégriste, mais je comprends pas qu'on continue à parfois avoir des applications sans test unitaire. Voilà, après nous on fait aussi de l'analyse statique, souvent avec un outil comme Sonar, donc analyse statique de code et souvent couplé à ça, il y a un peu ce dont parlait Erwan, il y a une partie sécurité avec il y a des plugins de l'OWASP qui permettent de ben, un peu de vérifier si les dépendances sont pas trop sujettes à des vulnérabilités. Souvent ça s'accompagne aussi d'une code coverage. Donc ça c'est ouais, c'est un petit peu à double tranchant. Je pense que c'est un outil vraiment intéressant. Après, faut pas le prendre. Voilà, faut pas forcément se mettre une code coverage à 100%, ça veut rien dire. Voilà, faut un niveau correct, être sûr qu'on passe dans les branches les plus intéressantes du code.
Juste, je t'interromps. Est-ce que tu peux préciser à nos auditrices et auditeurs ce qu'est la couverture de code pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots?
Oui, bah en fait le but du jeu c'est quand on lance les tests unitaires, on s'assure, l'idée c'est d'essayer de passer sur le maximum de code, donc de passer dans toutes les branches de par exemple s'il y a un if à un endroit, bah essayer de passer dans toutes les branches du conditionnel pour s'assurer que on couvre le maximum de cas possible par le source code. Voilà.
Et si on a des cas qui ne sont pas couverts, ça veut dire qu'on a du code mort, qu'il faudrait l'enlever ou...
Non, bah alors c'est du code pas forcément testé. Après, ça peut avoir du sens. Par exemple, un truc très bête, c'est s'il y a un peu du code généré, pas forcément utile de passer sur ce code-là. Après, on peut juger que certaines parties sont pas forcément nécessaires d'être couvertes autant que d'autres. Voilà, parce qu'après, ça a forcément un coût d'essayer de couvrir. Alors, plus la code coverage est élevée, mieux c'est, on va dire. Mais il faut quand même faire attention parce que ça suppose aussi d'avoir des tests qui tiennent la route. Parce qu'on peut faire une très bonne coverage en faisant un test qui fait à la fin, on peut passer dans plein de codes, puis à la fin, on fait un test qui fait 1 égale 1. C'est toujours vrai. Donc on a une super couverture de code, mais on n'a testé rien du tout. Donc voilà, moi, il faut être prudent avec ces histoires de test coverage. C'est un outil. C'est bien de se donner des objectifs, mais c'est enfin, c'est pas que la vérité ultime, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait régulièrement dans la CI? Il y a des fois la construction des artefacts. Donc, création d'images Docker éventuellement, création de jars si c'est du Java, etc. Et on pousse ça après sur les différents repos. On va stocker ces artefacts. Voilà, puis après, effectivement, aussi un peu souvent du test d'intégration. Alors après, ça a plusieurs noms. Voilà, on peut parler de smoke test, de test d'intégration, d'end-to-end test. Bon, il y a des variantes, voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer de. Bon, un truc tout bête, moi, je trouve, c'est par exemple si on peut essayer de démarrer l'application, juste la démarrer. Bah ça donne déjà une idée de si par exemple je sais pas on peut avoir un cas très bête mais il y a une clé de configuration qui est manquante sur l'application parce qu'on s'est loupé sur un fichier de conf, bah ça permet de le détecter. Donc ça c'est vraiment du test un peu niveau zéro au niveau d'intégration, mais après voilà on peut enrichir. Il y a des librairies qui permettent de faire des tests d'IHM. Voilà, enfin tout ce qui va pouvoir amener de la fiabilité, je pense c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment les étapes les plus communes qu'on va retrouver.
Je vais rajouter quelques petites choses. Tout à l'heure, tu as parlé du linter dans l'IDE du dev. Alors, même si c'est bien, moi, je vois une limite à ça. C'est que du coup, la configuration de ton linter, donc le linter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en effet pour pouvoir avoir des conventions de code partagées dans toute l'équipe et pour s'assurer que les bonnes pratiques de code soient appliquées. Et avoir le linter dans son IDE, ça nous assure pas qu'en fait chaque développeur ait les mêmes conventions en fait, puisque du coup comme elles sont pas versionnées dans le code, C'est lui qui risque de l'avoir configuré, donc il peut y avoir plusieurs configurations de linter différents. C'est le seul truc que je verrais du linter uniquement dans l'IDE du poste de développement.
Je pense que tu as raison, hein. C'est bien de le mettre dans la CI. Après, voilà, après il y a des fois des priorités qui font qu'on ne le fait pas forcément. Moi, un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est sur le... Par exemple, sur l'analyse statique de code avec un outil comme Sonar, donc ça va remonter les, par exemple, les vulnérabilités, les bugs potentiels, ce qu'on appelle aussi les code smell, donc un peu la dette technique, etc. Les mauvaises pratiques. Et là, pour le coup, j'ai une expérience un peu pas malheureuse, mais je pense que c'est bien en fait de se mettre ce qu'on appelle une quality gate, c'est-à-dire de se donner un objectif et essayer de le remplir, quitte à ce que la quality gate soit relativement basse. Donc du coup, les gens, ça les sensibilise à ce qu'il faut faire et ensuite remonter un petit peu le seuil pour améliorer la qualité de code. Mais une fois, moi, par exemple, j'ai pas mis de quality gate. J'essaye de pas imposer des choses. Voilà, j'essaye de. Et ça, par contre, pour le coup, c'est pas une très bonne idée. Il faut mieux mettre quelque chose d'assez pas forcément très ambitieux au début et monter la barre que de remettre. Parce que sinon, si on met rien, bah, personne ne regarde. En fait.
Alors moi, j'ai complété quelques petites choses et puis vous pourrez encore compléter. Moi, ce que je vois, c'est que l'intégration continue nous permet de faire tout un tas de tâches automatisées à plein de moments de la vie du code. Et du coup, il y a un truc qu'on peut faire, c'est par exemple générer des sites statiques et notamment les sites de documentation. On peut les générer à ce moment-là, notamment quand on fait des push sur une branche particulière. Ça peut être une branche de documentation ou même... je sais que GitLab il peut se déclencher et il peut en plus vérifier s'il y a une partie du code qui a changé, donc si un répertoire particulier de ton dépôt de code a changé, il peut lancer certaines tâches. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et puisqu'on en est à lancer des choses de manière un peu complexe, il y a un truc aussi qui peut être fait, c'est au moment où on crée une merge request sur GitLab, alors probablement sur d'autres CI, on peut le faire, mais en tout cas, sur GitLab, quand on crée une merge request qui nous crée la branche automatiquement, il va lancer la CI toute seule. Et du coup, à ce moment-là, on peut, par exemple, créer un environnement à la volée dans le cloud sur notre branche. Et à chaque fois qu'on va pousser sur cette branche-là, on va automatiquement avoir un déploiement sur cet environnement à la volée. Et quand on fait une merge request et qu'on valide la merge request, dans GitLab, il y a un truc aussi, on peut configurer un passage de CI avant le merge, et donc à ce moment-là, on peut détruire l'environnement, ce qui fait qu'en fait, l'environnement il a une durée de vie pendant tout le long où on crée notre code sur notre branche. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal, que j'aime bien aussi, la création d'environnement virtuel pour les développeurs. C'est quelque chose qui est bien. Alors, je ne l'ai pas encore mis en place, mais je sais que c'est possible de le faire. Vous avez parlé tout à l'heure des analyses de code et autres de sécurité, et je trouve que pour l'instant la sécurité sur Docker est un peu sous-estimée et qu'on ne fait pas assez d'analyses de sécurité sur nos images de manière globale. Comme c'est une technologie qui est assez jeune, je pense que c'est un peu sous-estimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas vraiment d'accord? Je parle de manière globale, hein, je parle pas chez vous, je parle de manière globale dans la tech.
Moi je peux parler, d'ailleurs c'était un des sujets qui était sur le forum des compagnons, qui était justement comment tester, enfin essayer de repérer les vulnérabilités d'une image Docker, quels sont les outils, etc. Aujourd'hui, on a donc un step de pipeline pour les projets concernés qui consiste à faire passer l'image générée par Claire, qui en fait permet de va regarder votre image, va regarder le contenu des différentes dépendances. Donc ça se base sur les package managers, les trucs comme ça, et il va regarder les versions que vous utilisez, et puis il va vous dire bah, attention, cette version il y a tel CVE, etc. Et puis il va vous donner un ordre de sévérité pour chaque vulnérabilité. Donc après c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire ou pas de ça, mais Oui, bien sûr. Il faut, enfin, alors, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce genre d'étapes dans les images qui livrent. Même bien qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans Docker Hub, il y a un truc à peu près similaire qui est intégré. Et en tout cas, dans Kay ou Quay, je ne sais jamais trop comment on prononce ça, mais c'est sûr qu'il y a cette étape qui est affichée aussi. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs. Mais après, il faut voir aussi, il y a tout un tas de vulnérabilités qui sont pas toujours évidentes à fixer quand on est sous Docker, parce que par exemple on part d'une image officielle mais qui contient déjà une CVE, donc la corriger à son niveau, ça peut être un peu pénible. Enfin, il y a c'est enfin oui, mais c'est pas toujours évident d'avoir la main pour corriger de façon propre et de façon pérenne ce genre de choses. Sans compter que, bah, en plus, il faut que les vulnérabilités soient corrigées.
Ouais, je pense que c'est un gros boulot parce que ça t'oblige. Enfin, si on veut vraiment être, je pense, super rigoureux, ça oblige à construire ses propres images pour vraiment avoir la main sur tout. Donc ça, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot de mainteneur et ça peut pas se faire. Voilà. Sur mon client, on utilise Arbor comme repo. Donc dès qu'on pousse une image, il y a une analyse qui est faite avec un outil. C'est pas clair, c'est un autre, mais voilà, c'est l'idée. Je crois que même que c'est pluggable, en fait, on peut choisir l'outil qu'on veut pour faire l'analyse. Aujourd'hui, si tu veux, enfin, de notre côté, on n'est pas donc on commence à regarder. Enfin, on regarde, on va commencer, on commence à faire des nettoyages un petit peu sur la base de qu'est-ce qui est vraiment pas beau. Bah, on essaye de vraiment améliorer en commençant par ce qui est vraiment troué. Après, de là à, alors moi, si ça tenait qu'à moi, j'irais assez loin et puis limite, tu passerais pas à l'étape suivante si t'as pas enfin si t'as des vulnérabilités critiques. Pour moi, ça va pas plus loin, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, il faut aussi qu'il y ait la maturité pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas complètement automatisé dans le cycle où on va refuser d'aller plus loin dans les étapes d'intégration continue si on utilise des images qui sont pas forcément ouf, quoi.
Oui, en effet, c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais dans le pipeline, s'il y a plein de jobs, il peut y avoir des branches de jobs, et en théorie, on s'arrête dès qu'il y a un job qui plante, mais on peut très bien décider que bah non, en fait, s'il plante ce job-là, c'est pas trop grave, et ça dépend tout des politiques de choses. Et alors, ce que tu me dis, ça m'intéresse, le fait que tu pousses dans Arbor, c'est Arbor qui va scanner. Et il scanne au moment où l'image elle est poussée, est-ce qu'elle est mise à disposition s'il y a des failles de sécurité ou pas?
Alors, peut-être pas toutes les subtilités d'Arbor, mais oui, enfin, je pense que ça se configure. Oui, aujourd'hui, nous, c'est mis à dispo. C'est-à-dire, ce qu'on pousse est mis à dispo. Par contre, il y a un rapport qui est généré, et en face, tu as le résultat du niveau de vulnérabilité sur ton image. Après, il faut aussi faire super gaffe à, enfin, comme l'analyse de code, enfin, comme la couverture, quoi. Faut les vulnérabilités, faut aussi faut un peu de recul, quoi. T'as des chiffres qui sortent, qui parfois peuvent faire peur, mais je dis pas qu'il faut enlever, faut pas enlever les vulnérabilités, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, faut des fois prendre un peu de recul. Dans certains contextes, elles sont plus graves que dans d'autres. Voilà, donc il faut faire attention à ces outils qui sortent aussi des mesures qui peuvent parfois qui sont sujettes à analyse quand même, je pense.
Moi, dans la CI qu'on a au taf, justement, si Claire remonte un truc qu'on n'a pas whitelisté et qu'on n'a pas whitelisté, bah, en fait, ça push pas l'image sur le repo. En revanche, on va pas se mentir, quand ça arrive, on regarde la sévérité du truc, on regarde ce que ça concerne, et jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule fois où on s'est dit, ouais, bon, ça, c'est vraiment un truc qu'on peut pas laisser passer, et on a attendu, le fixe est arrivé quelques temps après, et on a attendu que ce fixe soit dispo pour comment dirais-je pousser l'image. Donc ça nous a décalé effectivement notre release cette fois-ci. Mais sinon, à part cette vulnérabilité qui était en high, alors je me souviens plus laquelle c'était, mais qui était en high. Quand c'est négligeable, bah, ou low, effectivement, Claire nous bloque, il va nous dire attention, il y a un truc, mais chez nous, il y a un humain qui doit regarder ça et qui doit dire ok, ça on whitelist et on prend la responsabilité de pusher ce truc avec cette vulnérabilité.
Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment important de le faire parce qu'il y a quand même des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, notamment sur OpenJDK, je crois qu'il y a eu un truc il n'y a pas très longtemps, où l'OpenJDK, alors je ne sais plus quel, le 8, en fait, si on prenait la 8 basée sur Alpine, bon, je ne vais pas disserter si Alpine c'est bien ou pas, entre guillemets, il y avait une image, l'image utilisée d'Alpine était super vieille. Voilà, donc je pense que c'est important d'effectivement passer dans ces outils-là et de regarder à minima. Et effectivement, je pense que votre approche, je pense que c'est la bonne, hein, de bloquer. Comme je disais, pareil que pour l'analyse de code, je pense qu'il vaut mieux mettre une barre bloquée avec une barre un peu basse et après monter les exigences petit à petit que de rien faire en fait.
Ça va m'amener à vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait des tests de pénétration ou des pain tests dans votre CI pour faire du pain test en continu? Ou c'est un truc qui, comme moi, reste dans vos rêves, vos pieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on pourrait parler des pain tests, mais on pourrait aussi parler des tests de performance en continu. Donc, soit toutes les nuits, soit à certains
moments. Ouais, alors après, il y a la CI qu'on fait, puis il y a celle dont peut-être on rêve. Ça dépend vraiment de la maturité. Effectivement, je pense qu'après, dans les choses qu'on peut aborder, on peut aller très loin, je pense. Notamment, on a parlé d'analyse de sécurité statique du code, mais on peut imaginer aller plus loin en, par exemple, couplant des tests d'IHM avec, donc là on a des outils donc souvent ça s'appuie sur une librairie qui s'appelle Selenium qui permet de piloter un navigateur, donc ça permet de faire des tests d'IHM, mais ce qu'on peut imaginer c'est coupler ça avec donc d'écrire un chemin dans l'applicatif et au passage on peut aussi enregistrer ça avec un outil comme Zap qui est un outil de l'OWASP qui lui fait de l'analyse de sécurité dynamique, c'est-à-dire il enregistre un chemin en passant dans ces différentes pages-là, lui va essayer de trouver s'il y a des problèmes, des cross-site scripting, des injections SQL possibles, enfin voilà, tout ce qui est toutes les failles possibles et inimaginables. Donc cet outil-là permet voilà, de le faire dynamiquement sur l'appli qui tourne. Donc ça suppose quand même d'arriver à démarrer l'application, comme tu le disais, à un moment, de faire des tests d'IHM en enregistrant éventuellement si c'est ce parcours-là. Et ensuite, l'outil Zap peut donner aussi un rapport sur la sécurité dynamique de l'application. Quoi. Donc ça, voilà, ça c'est des idées, de mon côté c'est des idées, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, par contre oui, à mettre en place je pense que c'est compliqué, même les tests, les tests d'intégration c'est pas toujours super facile à mettre en place, et surtout la grosse problématique de tout ça c'est arriver à le faire vivre, c'est-à-dire quand même qu'il faut qu'il y ait des développeurs qui embrassent le truc complètement, et qui maintiennent ces tests, après... Voilà, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée, c'est super, super intéressant. L'autre type de test qu'on peut essayer de faire, mais là c'est encore plus loin, je pense, dans la maturité. Alors ça se fait de manière un peu différente, mais on peut imaginer aussi des tests de chaos. Et si c'est une application voilà, qui est basée sur des choses en cluster, voilà, on peut imaginer de démarrer cette application-là et de commencer à la stresser un petit peu. Donc là, aujourd'hui, ça se fait plutôt sur... donc c'est ce que fait Netflix, hein, ils ont pas mal parlé là-dessus. où ils font du chaos engineering. En gros, ils jouent ça carrément sur leur prod en live pour s'assurer qu'ils sont complètement résilients. Mais ça peut aussi se faire, je pense, un peu en amont dans la CI. Donc, j'ai jamais mis ça en place, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles c'est possible d'avancer sur ce genre de choses. Et puis, comme tu le disais, ouais, les performances, tests de perf systématisés, compliqué à mettre en place, je pense, mais je pense que ça a une vraie valeur aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, si on n'en fait pas, de se prendre une régression ou qu'une modification de code ait un impact fort sur les performances. Et de pas forcément, là, si on fait des tests au niveau de la CI, on va le voir avant que ce soit déployé. Du coup, je pense que c'est intéressant. Après, je pense que c'est des choses qui demandent beaucoup de maturité. Voilà, après, ça dépend aussi de l'application, du niveau de criticité de cette appli et tout ça.
Bon, on va arriver vers la dernière partie de l'émission. On va parler un petit peu de la supervision de notre intégration continue. Puisque Erwan voulait aborder un point, et moi je suis assez curieux, parce que je ne sais pas trop comment on peut superviser notre intégration continue, je vais apprendre des choses, je pense.
Ouais, le terme est un peu galvaudé, mais par contre, on parlait tout à l'heure, un peu plus tôt, du temps que prend la CI sur une PR, et effectivement, si à chaque fois que tu pushes du code, tu attends 2 heures pour avoir ton petit tick pour pouvoir merger ton code, enfin, personne n'est satisfait, quoi. Et puis le jour où, enfin, c'est pas le jour, mais dès que tu as des trucs un peu plus urgents, bah, c'est toujours un peu pénible, tu vas te forcer à sauter des étapes et tout, enfin, bref, c'est pas terrible. Mais du coup, il faut pouvoir anticiper ce truc-là, être en mesure de dire, ah bah tiens, là on commence à prendre un mauvais chemin. Et en fait, dans ce que j'appelais supervision, c'est vraiment galvaudé, mais c'est juste garder un... Nous, par exemple, on a une alerte si le temps de la CI... Enfin, une alerte, c'est pas une alerte d'astreinte ou quoi que ce soit, mais on a un message qui va nous notifier si le temps de test sur un projet, bah, a augmenté de plus X%. Et en fait, ça peut paraître idiot, mais ça nous a permis des fois de spotter assez vite que, bah, en fait, qu'il y a un build qui était mal foutu, et qui est suite à un merge, bah, il y a, ouais, c'est ça, il y a un build qui potentiellement aurait pu exploser les temps de la CI. Et donc là, c'est pas grand chose, hein, c'est une étape dans notre pipeline qui écrit tout un tas de stats et qui est pushé après dans notre stack ELK, etc. Et puis un petit truc qui tourne derrière pour lever une alerte. Mais juste avec ça, bah, tu vois, c'est cette paire, on ne l'a pas mergée. Ça a été détecté. Et 2-3 fois, ça nous a sauvés. Donc je pense que, sans faire un monitoring de la mort, mais au moins, je pense que c'est important que les équipes soient au courant quand, par exemple, sur les branches master ou prod ou quoi, bah, si la CI qui tombe dessus est KO, bah, il faut que les équipes soient au courant. Là, typiquement, nous, on a un channel dédié où, quand il y a un message, c'est un message qui vient forcément de la pipeline Jenkins, enfin de Jenkins, et s'il y a un message là-dedans, ça veut dire que sur les projets de prod et sur les branches importantes de ce projet, il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, et donc du coup ça devient important que les équipes comment dirais-je, agissent. Et donc ça, c'est plus de l'alerting, mais pour le monitoring, c'est ce que je disais, c'est on a tout un tas de stats, donc on sait, bien sûr, tu as déjà plein de choses qui sont fournies avec les différents outils, où tu sais ton pourcentage de build OK ou KO, etc. Mais je pense que pouvoir avertir de... ah bah tiens, là c'est bizarre, ta CI elle est trop flappy, parce que tu as des tests unitaires qui des fois marchent, des fois marchent pas, pour X ou Y raison. Pouvoir mettre des stats factuelles face à ça, bah, je trouve que c'est pas mal. Et moi, dans mon cas, alors je suis désolé, je suis un peu égocentré là, mais dans mon cas, ça nous a permis vraiment plusieurs fois de détecter des trucs qui n'allaient pas. Et c'est juste en rajoutant des petites stats à gauche, à droite et en créant les petites routines qui vont générer des alertes dessus. Donc, ce n'est pas du monitoring au sens Nagios ou je ne sais pas quoi, hein, mais c'est juste tous ces outils de CI fournissent énormément de stats. Ben, en fait, il faut les exploiter pour pouvoir détecter que les trucs vont bien ou pas bien.
Ouais, ben, je pense que c'est l'essence même du DevOps. Hein, moi, je dirais mesurer. Hein, ça fait partie des clés du DevOps. Donc, pour moi, tu es dedans. Donc, ça fait complètement du sens. Et si je dois juste ajouter un petit truc, c'est je pense que des fois, il ne faut pas forcément viser. Trop compliqué, il vaut mieux des fois, enfin, comme je disais, des fois juste un test où on démarre la pseudo-test d'intégration, on démarre l'application pour s'assurer que ben, le basique est fait, ben, c'est mieux que rien. Donc voilà, moi c'est un peu cette position-là de dire bon, voilà, essayer de mettre plus on peut mettre de contrôle sur la qualité de notre soft, au mieux c'est quoi.
Alors il y a un truc que je peux dire, mais on déborde un peu sur le déploiement, mais des fois, ce que je faisais, c'est j'utilisais les notifications de l'intégration continue pour notifier soit des canaux de chat particuliers, soit carrément j'allais inscrire des informations dans la supervision pour avoir l'information de quand est-ce qu'on a changé la version de code pour voir s'il y a des impacts sur, bah, sur l'application, sur les consommations de l'application, ou s'il y a des temps de réponse qui s'écroulent, par exemple. Ça c'est bête, mais ça peut sauver la vie, en fait. Je crois qu'on a atteint la fin de cet épisode, encore un épisode assez conséquent, puisque nous sommes à plus d'une heure. Je vous remercie en tout cas à tous les deux de votre temps, encore, et puis de la discussion très intéressante là-dessus. Et moi, j'encourage tous les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés, si cet épisode vous a plu, à le partager et à le diffuser dans votre entreprise, surtout si vous n'avez pas encore mis en place d'intégration continue, pour sensibiliser les gens à mettre justement l'intégration continue et à leur dire bah « voilà, c'est super, il faut qu'on en mette une, il faut qu'on commence par quelque chose ». Et ben moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et probablement la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Et René, je vais te laisser le mot de la fin en premier.
Oui, alors, bah, quelque chose peut-être de... Enfin, voilà, on est dans une discussion. Je pense qu'on ne peut pas tout aborder. Donc, forcément, on oublie des choses ou dit des fois peut-être des bêtises. Je ne sais pas. Après, ce qui est intéressant, bah, c'est de venir, je pense, sur le forum des compagnons du DevOps. Et souvent, Christophe, même je pense systématiquement, Christophe nous fait un sujet sur la vidéo du moment. Et voilà, si on a oublié des choses, ne pas voilà, on peut en discuter aussi sur le forum de manière offline. Et je trouve ça plutôt cool. Voilà.
Et moi, j'ajouterais qu'effectivement, la CI, c'est important. Il faut vraiment pas hésiter à s'y mettre, de commencer de façon humble et comment dirais-je, et petit. Donc effectivement, même avec un test qui valide que ça build bien, ou enfin, j'en sais rien, ou que l'application démarre, c'est déjà très bien pour commencer. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions managées disponibles gratos. Pour s'essayer, et donc ça c'est aussi un frein en moins pour mettre en place ça. Pas forcément besoin de déployer des Jenkins avec des milliards de slaves pour démarrer, donc ça c'est ce qui me paraît pas mal. Et effectivement, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qui est un peu c'est le genre de projet très fil rouge dans les équipes tech, hein, parce que c'est des trucs à améliorer tout le temps. Donc c'est assez passionnant, et on a probablement oublié des choses, mais on peut continuer la discussion plus tard. Et je finirai par post-it, post-it.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.